Okay.
Merci. Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je m'appelle.
Mmh.
Je suis suédoise
mmh.
et j'habite à Paris depuis 1992.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais à Paris?
Je suis prof de danse.
Oui. Et où ça?
Je travaille dans plusieurs lieux. Je vais un peu à droite, à gauche. Mmh. J'ai différents employeurs, des centres de loisirs, une école de théâtre,
mmh.
une école maternelle, une école élémentaire. Voilà.
Donc un peu partout.
Mmh.
Et tu enseignes quel genre de danse?
Danse contemporaine.
Oui. Pas classique ni. Non.
Je suis spécialisée. Quand on passe un diplôme pour être prof de danse en France,
mm-hmm.
c'est dans une soit jazz, soit mm-hmm. ballet mm-hmm. ou moderne.
Et t'as fait tes études en France?
Oui, toutes les études supérieures, mm-hmm. je les ai faites en France.
Mm-hmm. Et la danse contemporaine, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est tout genre de danse?
En fait, c'est un courant qui s'est développé les 100 dernières années, qui
mm-hmm.
commence avec quelqu'un qui s'appelle Isadora
Duncan.
Voilà.
Mm-hmm.
Et c'est, entre guillemets, il y a aussi différentes sources,
oui, oui.
surtout en Allemagne et aux États-Unis. Et c'est une danse qui a pris plein de formes différentes pendant le siècle dernier. Mm-hmm. Ça a beaucoup évolué, mais principalement, on peut dire que chaque chorégraphe est tout à fait libre de constituer son
mm-hmm.
univers.
Mm-hmm.
On ne danse pas forcément avec des chaussons.
Avec les pointes. Ouais.
Voilà, les pointes a priori non,
mm-hmm.
Et pas forcément les chaussons, non, parfois à pieds nus.
Mm-hmm.
Mais ça dépend, c'est pas une règle, c'est pas
D'accord,
obligatoire.
Ouais.
Mais très souvent, on recherche d'avoir une meilleure contact avec
mm-hmm.
le sol. Et la danse contemporaine a souvent. Il y a beaucoup de collaborations qui sont faites entre peintres, des gens de théâtre,
mm-hmm.
Des danseurs, des chorégraphes. Et il y a une expression qui est. Que je qualifierais de libre, c'est-à-dire
mm-hmm.
qu'il n'y a pas de. Dans le ballet, il y a un vocabulaire.
Mm-hmm.
Et dans le jazz aussi, il y a un vocabulaire. On sait tout de suite, il y a comme un stéréotype.
Mm-hmm.
Quand on dit ballet, on voit tout de suite une image de ce que ça
Bien
peut
sûr.
Être. Alors, dans la danse contemporaine, il n'y a pas ça, justement, parce
mm-hmm.
que chaque chorégraphe fait ses propres recherches autour
mm-hmm.
du mouvement.
Tu connais j'imagine, un chorégraphe américain qui s'appelle Tricia Brown.
Oui, bien sûr, qui est à Paris en ce moment.
Qui est à Paris, que j'avais vu.
Oui.
Et qu'est-ce que tu as pensé alors? Qu'est-ce que tu penses de Tricia Brown?
Ah, j'ai pas vu ce qu'elle présente ici, mais j'ai vu en vidéo et j'ai vu d'autres spectacles. Oui, elle représente une style de danse qui est très agréable à danser en
mm-hmm.
tant que danseur. Parce qu'on travaille. Oui, non, mais parce
que.
Non, mais il y a des chorégraphes, d'autres chorégraphes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Merce Cunningham, qui a un style qui a. Il n'y a pas la même jouissance, c'est beaucoup plus. C'est assez proche du classique dans la technique,
mm-hmm.
mais l'utilisation de l'espace scénique est tout à fait différente.
Mm-hmm.
Mais Tricia Brown, oui, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres un peu moins, ça dépend.
J'avais vu des vidéos de Tricia Brown. Enfin, qu'est-ce que tu penses? Tu as une vidéo où ça reste pendant 15 minutes, elle reste au sol et elle bouge les bras, les pieds pendant 15 minutes, 20 minutes.
Et à chaque fois, il y a un mouvement qui s'accumule.
Je ne sais pas en fait.
Normalement,
j'ai pas compris.
C'est ça. Je crois que c'est accumulation piece. Mais en fait,
oui, les accumulation piece.
Ouais.
Ouais.
Mais en fait, c'est à chaque fois, elle ajoute un mouvement et puis il reprend de zéro. Donc au début, et ça s'accumule.
En fait, elle fait un mouvement plus un autre.
Voilà.
Donc il fait 1 plus 2. Ensuite,
après, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
D'accord.
Et à chaque fois, elle repart de zéro. Mais elle le fait d'une façon assez fluide, ce qui fait que ce n'est pas forcément visible. Un danseur va le voir, mais effectivement, ça ne saute pas aux yeux.
Et qu'est-ce que ça fait? Comment on peut. Moi, j'ai du mal à interpréter. Donc, à comprendre ou à saisir, comment tu l'expliquerais ou comment qu'est-ce que tu peux dire, parce que moi j'ai pas toi ça te plaît ou
toutes ces pièces ne me plaisent pas, c'est pas, mais en fait ça a été créé dans une époque qui était très intéressante et très fertile,
70 non plus ou moins,
exactement. Et aux États-Unis, souvent les courants de danse moderne, ils se sont souvent construits en opposition
mm-hmm.
à un maître qui est avant.
Mm-hmm.
Et là, donc il s'oppose, enfin il crée un mouvement. C'est un mouvement qui correspond un peu au mouvement hippie et tout ça.
Oui.
Et leur, il y a tout un groupe de danseurs qui font énormément d'expérimentation. Mm-hmm. Et ils disent par exemple non à la virtuosité, non au spectacle, non aux costumes, non aux artifices, non. Mm-hmm. Non, ils veulent chercher quelque chose ils ont envie de chercher la danse partout dans mm-hmm. la vie, dans chaque mouvement, dans la marche, dans des choses extrêmement simples. Mm-hmm. Ce qui fait que ça les a amenés à de nombreux chorégraphes, dont Trisha Brown, à faire des recherches sur des mouvements de base. Et donc, ce qu'elle fait, c'est voilà, elle travaille sur une accumulation de mouvements, et ça, c'est sa recherche. D'accord. Après, on peut aimer ou pas aimer, mais ça s'inscrit dans un contexte D'accord. historique D'accord. et qui a créé un style particulier.
Et ça a du sens maintenant ou non, dans les années 2000?
Bien sûr que ça a du sens.
Ça a encore du...
Ça a du sens dans la mesure où on vient tous de quelque part.
Bien sûr.
Donc, ça a du sens. Après, la question du goût, c'est autre chose. Enfin, on peut aimer ou pas aimer. Mais ça fait partie de tout un processus. Et d'ailleurs, ce développement-là qu'il y a eu dans les années 60 en France, aux États-Unis, il y a beaucoup de chorégraphes français aujourd'hui qui a des liens avec ce genre de ce qu'on appelle la non-danse.
Ouais.
Beaucoup de spectacles qui sont pas faciles à voir parce que il y a des spectacles de danse contemporaine où on danse carrément pas, par exemple.
Bien sûr. Est-ce que tu connais des Français, danseurs français, enfin des chorégraphes français?
Oui, bien sûr.
Oui, il y a justement, parce que je les ai là en fait. Il y avait Roland Petit.
Oui, ça c'est plutôt du classique. Oui.
Celui qui a fait Caligula.
Nicolas
Leriche, oui. Tu as pu les voir tous ces ballets ou non?
Non. Non, non.
T'as pas vu les...
Non, ça s'inscrit plus dans un cadre de danse classique qui mm-hmm. est moins mon domaine. Aussi, c'est souvent des prix un peu plus élevés. ça fait partie de. Mais j'aime bien aller voir si je peux voir. Bien sûr que ça m'intéresse aussi.
Non, c'est intéressant tout ce que tu dis. J'avais Trisha Brown, je l'ai vue à Garnier. Il n'y avait mm-hmm. pas de musique. C'est D'accord. que de la danse sans musique. Mm-hmm. C'est assez lourd. Ouais. Enfin, c'est difficile. Mm-hmm.
Ouais.
C'est beaucoup plus difficile.
Mais je pense que la danse contemporaine, souvent, cherche à soit à poser des questions, à travailler sur des concepts. Donc c'est vrai que c'est un côté... C'est pas forcément une danse qui cherche à divertir.
D'accord.
Maintenant, il peut y avoir de la danse contemporaine qui est très réussie et qui, en même temps, apporte ou crée une émotion chez le spectateur. En même temps, ça fait réfléchir. En même temps, c'est divertissant. C'est ceux qui sont les plus forts. Mais il y en a des gens aussi qui cherchent pas du tout le divertissement. Et donc, forcément, il faut aimer un peu l'art conceptuel. Et c'est pas facile d'accès.
Alors, pourquoi tu disais que tu es en France depuis 92, pourquoi tu as choisi la France à la base?
Je n'avais pas envie de vivre en Suède après le bac. Mm-hmm. Et comme j'avais étudié l'italien au lycée, j'ai été d'abord étudier un peu en Italie, quelques mois. Mais ce n'était pas un endroit où j'avais envie de rester pour vivre. Et j'aime beaucoup les langues, j'ai étudié plusieurs langues à l'école, mais je n'avais pas étudié le français. Et c'est quelque chose où je voulais absolument apprendre le français. Mmh. Et en même temps, je cherchais un endroit où je pouvais rester, un endroit qui soit une métropole culturelle. Et donc forcément, Londres, pour moi, c'était trop proche de... Trop nordique, on va dire. Et donc, je suis venue ici d'abord pour apprendre le français. Et après, je suis restée. J'ai commencé ma formation.
Dès le début, tu as voulu faire de la danse?
Oui, j'ai fait en Suède pendant toute mon adolescence, j'ai fait de la danse.
Oui, donc tu savais. Alors, que seraient les différences culturelles que tu pourrais voir entre la France et la Suède? Par rapport aux relations déjà, ou par rapport surtout à les relations entre les hommes et les femmes?
Oui, d'accord.
Pour
ma culturelle, mais c'est vrai, j'ai tendance à penser tout de suite à la place de l'art dans la société,
mais c'est vrai que c'est pas forcément ça.
Je pense que en Suède, on a ce qu'on appelle l'égalité des sexes, qui apporte beaucoup de belles choses, mais en même temps, Enfin, les hommes en Suède, ils sont beaucoup moins habitués à prendre l'initiative. Enfin, il y a beaucoup moins de romantisme ou de ce genre de choses qui existent beaucoup plus en France. Par contre, en Suède, c'est peut-être plus facile d'être copain entre hommes et femmes. C'est assez naturel. Ça pose pas de questions. Alors qu'ici, j'ai l'impression que parfois, ça peut être plus vécu comme plus surprenant.
Confus ou flou?
Non, enfin, pour nous, ça ne l'est pas, mais peut-être que ça peut, peut le paraître pour quelqu'un de l'extérieur. Mais non, inhabituel.
Est-ce que ça, à la longue, ça te gêne, cette, justement, cette...
Non, c'est un choix de vie. Non, j'ai choisi de vivre ici avec tout ce que ça a de bien et de moins bien. Et je pense que j'aurais du mal à vivre en Suède, malgré le fait que le plus je vis ici, le plus je vais apprécier tout ce qu'il y a de bien en Suède. Il y a énormément d'avantages.
Tu comptes revenir en Suède?
Non, parfois j'ai eu l'occasion d'y travailler. J'ai en ce moment des collaborateurs en Suède. Je trouve ça extrêmement agréable de garder ce côté vivant, parce que c'est pas quelque chose que j'ai quitté pour toujours, pas du tout. Mais mon choix de vivre, c'est ici. Je pense pas du tout que je vais vivre en Suède.
De Suède, tu viens d'où, en fait?
De Stockholm.
De Stockholm. Et t'aimerais pas revenir à Stockholm?
Stockholm, c'est une ville superbe, mais après autant de temps à l'étranger, dans une ville aussi grande que Paris, ça ne serait pas évident du tout.
Oui, mais j'imagine le retour...
Si je quitte Paris, ça serait pour aller plus vers le sud, je pense, plutôt que d'aller vers le nord. Mais bon, j'y vais une fois, deux fois ou trois fois par an en Suède, je ne peux pas être sans tous les Noëls, c'est en Suède, comme tous les Suédois, c'est pas... C'est une partie très importante, mais de ma façon, on va dire.
Et alors... Donc, qu'est-ce que tu fais sinon mais tu voudrais partir à d'autres pays, d'autres, si tu avais la chance, tu voudrais partir d'autres pays ou non? Quelle serait une autre destination que tu voudrais bien?
Pour vivre.
Pour vivre.
Pour vivre, ça pourrait être l'Espagne, mon ami espagnol, et on pourrait s'imaginer de vivre en Espagne. Maintenant, il y a encore d'autres difficultés là-bas, il faudrait voir, mais pourquoi pas. Moi, j'ai passé aussi une grande partie de ma vie en Grèce. Et c'est toujours quelque chose que je pourrais imaginer de, aussi de vivre là-bas.
Et tu parles combien de langues?
Il y en a 5 que je maîtrise. On va dire que je parle bien, dont le grec moderne. Le grec moderne, je saurais le lire, enfin je sais le lire, mais si je lis quelque chose de compliqué, je ne pourrais pas tout comprendre. Je pourrais déchiffrer, mais le langage écrit, je n'y ai pas forcément accès. Et puis, je me débrouille en 2-3 autres. Oui.
Donc, ça fait plus ou moins 8, en fait.
Ouais. 8 avec différents niveaux, on va dire.
Et le grec, tu l'as appris où?
Depuis que j'ai 2 ans, j'ai passé presque tous les étés de ma vie là-bas. Mais contrairement à, par exemple, l'italien ou l'espagnol, qui peut s'apprendre comme ça un peu, le grec était vraiment trop compliqué. Donc, je connaissais juste vraiment des phrases un peu de touriste, quoi, vraiment très, très limitées. Et après le bac, j'ai profité, j'avais, c'était quoi, 1 mois ou 2 mois? J'ai un trou de mémoire, je crois que c'était 2 mois. Où j'étais à Athènes, où j'ai fait un cours de langue, donc c'était le matin, on avait des cours, et ça m'a permis de comprendre le grammaire, comment la construction de la grammaire, parce que c'est ce qui est vraiment différent. Et à partir de là, j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis qui parlaient pas anglais, et ça c'était vraiment génial, j'ai dû me forcer pendant toute un été à juste après ce cours, et ça a mis une espèce de base. Donc maintenant, pour la vie de tous les jours, je peux parler sans problème, mais quand même avec certaines limites, parce que le vocabulaire est compliqué.
Bon, mais sinon ça s'apprend. Et les loisirs, qu'est-ce que tu fais à Paris sinon, en dehors de donner des cours?
En dehors de la danse, voir des spectacles de danse, ce serait, cinéma, sortir, voir les amis, lire, voir des expositions.
Qu'est-ce que tu penses par rapport à Stockholm, la vie culturelle à Paris?
Qu'elle est infiniment plus riche. Il y a plein de choses qui viennent à Stockholm, mais c'est toujours un petit choix d'un choix énorme. Et ce choix énorme, il est quand même mieux représenté ici. Ce que j'adore à Paris, c'est tous les lieux de danse, je fais de la capoeira, des lieux où il y a une énergie incroyable, des jams, des improvisations à la Villette, il y a des gens qui dansent, enfin plein de choses comme ça, et ça on trouve beaucoup moins à Stockholm.
Et toi tu danses quoi en fait? Quelle est la danse que tu préfères le plus de toutes les danses? Tu parlais de capoeira, qu'est-ce que tu aimes danser toi?
J'aime beaucoup la danse contemporaine, mais la capoeira, j'ai fait pendant 4-5 ans. J'aime beaucoup, mais j'ai été un peu blessée à la fin, comme c'est super physique. Mais j'aime beaucoup. Et puis il y a d'autres styles aussi. J'aime beaucoup le hip-hop. Il y a certains courants que j'aime bien danser. Il y a un style à l'intérieur qui fait partie de la culture hip-hop qui s'appelle jazz rock, que j'aime beaucoup.
Et le tango ou
la salsa, c'est super aussi. Mais c'est ça, j'ai pris du cours de tango c'est en Suède, donc ça fait très très longtemps. Et j'aime bien les danses en général, mais je les pratique pas vraiment. Celle que je pratique, c'est vraiment la danse contemporaine. Oui, ouais. Et un style particulier qui fait partie de la danse contemporaine qui s'appelle danse contact, qui est assez acrobatique avec des portées, des choses comme ça que j'aime beaucoup.
Et les cours que tu donnes, les élèves, ils ont tout l'âge, c'est tous les âges en fait.
Oui, ça va de 4 ans et la semaine dernière, j'ai eu une femme qui avait 60 ans, je crois.
Qu'est-ce qu'elle voulait apprendre? Qu'est-ce qu'elle voulait danser?
Elle est venue au cours de danse contemporaine.
Elle voulait.
Et c'est un cours contemporain, mais un peu jazz pour être un peu plus grand public, on va dire. Donc c'est assez dynamique, il y avait beaucoup de sauts, mais elle s'est donnée, c'était très bien.
Ça veut dire combien de temps tu cours?
Ce cours-là, c'est un cours d'une heure et quart. Et ça dépend, ça va d'une heure à deux heures selon le lieu.
Oui, mais tu as des horaires fixes ou on t'appelle?
Non, j'ai des horaires fixes. Mais et certains lieux, c'est la même chose chaque semaine. Dans un autre lieu, on est plusieurs professeurs, donc selon chaque mois, l'emploi de temps change, mais j'ai à peu près le même nombre d'heures. Et après, il y a aussi des gens qui m'appellent pour donner des stages. Donc ça peut être 4 jours de suite, ou une semaine, ou un week-end, des choses comme ça. Donc ça dépend, c'est très varié.
Oui, donc t'as quand même pas mal de cours à donner.
Oui, ça dépend des moments. Au début de l'année, j'en avais pas beaucoup. Et finalement, là, on me demande pour des remplacements, des choses comme ça. Donc, ça fait du bien d'avoir.
C'est pas mal, ça.
Parce que surtout pour ce style-là, il y a très, très, très peu d'annonces.
Ah bon?
On cherche beaucoup de profs de hip-hop, de salsa, de danse orientale, de danse classique. Mais dans ce contemporain, la demande est moindre. C'est pas une danse qui est forcément à la mode, qui est pas très connue. La plupart des gens ne connaissent pas très bien. Donc, c'est pas facile de trouver du travail.
Et alors, qu'est-ce que je voulais te... Oui, sinon, qu'est-ce que tu aimes bien comme genre de cinéma ou comme livre, comme...
C'est assez varié.
Cinéma, t'as vu quoi dernièrement?
J'ai été voir à Noël, comme on était en famille, j'ai été voir Narnia.
Film
très familial. Mais j'avais lu les livres, mais ça doit faire peut-être 15 ans, 20 ans. Donc je me souvenais pas du tout très bien, mais les livres m'avaient énormément plu. Donc j'étais contente de retrouver l'univers, même si c'est un peu différent. Mais c'était sympa.
Tu as des frères, des sœurs?
J'ai une demi-sœur.
Une demi-sœur?
J'ai une demi-sœur qui est née en Suède. On a le même père. Qui est née en Allemagne et qui est venue en Suède à 8 ans. Et la mère de ma sœur est italienne. Et donc ma sœur, elle a grandi en Suède jusqu'à 13 ans. Après, elle est venue en France. Et maintenant, elle doit avoir à peu près 45 ans. Donc, elle a vécu toute une vie ici.
Oui.
Et son suédois, d'ailleurs, elle parle toujours suédois, mais elle, souvent, au bout d'un moment, on passe au français. Et par rapport à ça, il se passait quelque chose de marrant à l'intérieur de la famille. Au début, moi, je ne parlais pas français. Et si on se voyait avec mon père, on parlait toujours suédois. Et comme mon père, il apprécie beaucoup la France, il vient souvent et il aime parler français. Maintenant, il arrive qu'on se retrouve tous les trois et qu'on parle en français. Donc c'est curieux de vivre ce glissement de langue.
Tout à fait. Et l'italien, elle ne parle pas, elle?
Si.
Toi aussi?
Oui.
Et vous ne parlez pas, vous ne parlez jamais italien?
Non, ça ne serait pas tellement logique parce que comme on est en Italie...
Non, bien sûr.
Mais on pourrait.
D'accord. Alors, on va passer à...
Merci. On va passer à ça.